Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonjour, donc nous nous retrouvons pour Lectures en liberté avec la suite du récit de Annie Ernaux, Une femme. Elle n'était ni heureuse, ni malheureuse de quitter l'école à 12 ans et demi. La règle commune. Dans la fabrique de margarine où elle est entrée, elle a souffert du froid et de l'humidité, les mains mouillées, attrapant des engelures qu'on gardait tout l'hiver. Ensuite, elle n'a jamais pu voir la margarine. Très peu, donc, de rêveuse adolescence. Mais l'attente du samedi soir, la paix qu'on rapporte à la mère, en gardant juste de quoi s'offrir le petit écho de la mode, et la poudre de riz, les fous rires, les haines. Un jour, le contremaître a laissé son cache-nez se prendre dans la courroie d'une machine. Personne ne l'a secouru, et il a dû se dégager seul. Ma mère était à côté de lui. Comment admettre cela? Sauf à avoir subi un poids égal d'aliénation. Avec le mouvement d'industrialisation des années 20, il s'est monté une grande corderie qui a drainé toute la jeunesse de la région. Ma mère, comme ses sœurs et ses deux frères, a été embauchée. Pour plus de commodité, ma grand-mère a déménagé, louant une petite maison à 100 mètres de l'usine, dont elle faisait le ménage le soir, avec ses filles. Ma mère s'est plu dans ses ateliers propres et secs, où l'on n'interdisait pas de parler et de rire en travaillant. Fière d'être ouvrière dans une grande usine, quelque chose comme être civilisée par rapport aux sauvages. Les filles de la campagne, restées derrière les vaches, et libres au regard des esclaves, les bonnes des maisons bourgeoises, obligées de servir le cul des maîtres. Mais sentant tout ce qui la séparait, de manière indéfinissable de son rêve, la demoiselle de magasin. Comme beaucoup de familles nombreuses, la famille de ma mère était une tribu, c'est-à-dire que ma grand-mère et ses enfants avaient la même façon de se comporter et de vivre leurs conditions d'ouvriers à demi-ruraux, ce qui permettait de les reconnaître. Les dés. Ils criaient tous. Hommes et femmes en toutes circonstances, d'une gaieté exubérante mais ombrageux, ils se fâchaient vite et n'envoyaient pas dire ce qu'ils avaient à dire. Par-dessus tout, l'orgueil de leur force de travail, ils admettaient difficilement qu'on soit plus courageux qu'eux. Continuellement, aux limites qui les entouraient, ils opposaient la certitude d'être quelqu'un. D'où peut-être cette fureur qui les faisait se jeter sur tout, le travail, la nourriture, rire aux larmes et annoncer une heure après « Je vais me mettre dans la citerne ». De tous, c'est ma mère qui avait le plus de violence et d'orgueil, une clairvoyance révoltée de sa position d'inférieur dans la société et le refus d'être seulement jugée sur celle-ci. L'une de ses réflexions fréquentes à propos des gens riches, « On les vaut bien !» C'était une belle blonde assez forte. On m'aurait acheté ma santé, aux yeux gris. Elle aimait lire tout ce qui lui tombait sous la main, chanter les chansons nouvelles, se farder, sortir en bande au cinéma, au théâtre, voir jouer Roger la Honte et le maître des forges, toujours prête à s'en payer. Mais à une époque, et dans une petite ville où l'essentiel de la vie sociale consistait à en apprendre le plus possible sur les gens, où s'exerçait une surveillance constante et naturelle sur la conduite des femmes, on ne pouvait qu'être prise entre le désir de profiter de sa jeunesse et l'obsession d'être montrée du doigt. Ma mère s'est efforcée de se conformer aux jugements les plus favorables portés sur les filles travaillant en usine, ouvrières mais sérieuses, pratiquant la messe et les sacrements, le pain bénit, brodant son trousseau chez les sœurs de l'orphelinat, n'allant jamais au bois seule avec un garçon, ignorant que ses jupes raccourcies, ses cheveux à la garçonne, ses yeux hardis, le fait surtout qu'elle travaille avec des hommes suffisait à empêcher qu'on la considère comme ce qu'elle aspirait à être, une jeune fille comme il faut. La jeunesse de ma mère, cela en fait partie. Un effort pour échapper au destin le plus probable, la pauvreté sûrement, l'alcool peut-être. À tout ce qui arrive à une ouvrière quand elle se laisse aller, fumer par exemple, traîner le soir dans la rue, sortir avec des taches sur soi. Et que plus aucun jeune homme sérieux ne veut d'elle. Ses frères et sœurs n'ont échappé à rien. 4 sont morts au cours des 25 dernières années. Depuis longtemps, c'est l'alcool qui comblait leur creux de fureur, les hommes au café, les femmes chez elles. Seule la dernière sœur, qui ne buvait pas, vit encore. Il n'avait plus de gaieté ni de parole qu'avec un certain degré d'ivresse. Le reste du temps, ils abattaient leur travail sans parler. Un bon ouvrier, une femme de ménage dont il n'y a rien à redire. Au fil des années, s'habituer à ne plus être évalué que sous le rapport de la boisson dans le regard des gens, être bien, en avoir un coup dans le nez. Une veille de la Pentecôte, j'ai rencontré ma tante en revenant de la classe. Comme tous les jours de repos, elle montait en ville avec son sac plein de bouteilles vides. Elle m'a embrassé sans pouvoir rien dire, oscillant sur place. Je crois que je ne pourrais jamais écrire comme si je n'avais pas rencontré ma tante ce jour-là. Pour une femme, le mariage, c'était la vie ou la mort, l'espérance de s'en sortir mieux à deux ou la plongée définitive. Il fallait donc reconnaître l'homme capable de rendre une femme heureuse. Naturellement, pas un gars de la terre, même riche, qui vous ferait traire les vaches dans un village sans électricité. Mon père travaillait à la corderie. Il était grand, bien mis de sa personne, un petit genre. Il ne buvait pas, gardait sa paye pour monter son ménage. Il était d'un caractère calme, gai, et il avait 7 ans de plus qu'elle. On ne prenait pas un galopin. En souriant et rougissant, elle racontait « J'étais très courtisée, on m'a demandé en mariage plusieurs fois, c'est ton père que j'ai choisi. » Ajoutant souvent « Il n'avait pas l'air commun. » L'histoire de mon père ressemble à celle de ma mère, famille nombreuse, père charretier et mère tisserande, l'école quittée à 12 ans ici pour les travaux des champs comme domestique de ferme. Mais son frère aîné était parvenu à une bonne place au chemin de fer. 2 sœurs s'étaient mariées avec des commis de magasin. Anciennes employées de maison, elles savaient parler sans crier, marcher posément, ne pas se faire remarquer. Déjà plus de dignité, mais aussi de tendance au dénigrement des filles d'usine, comme ma mère, dont l'apparence, les gestes, leur évoquaient trop le monde qu'elle était en train de quitter. Pour elle, mon père aurait pu trouver mieux. Ils se sont mariés en 1928. Sur la photo de mariage, elle a un visage régulier de madone, pâle, avec 2 mèches en accroche-cœur sous un voile qui en serre la tête et descend jusqu'aux yeux. Forte des seins et des hanches, de jolies jambes. La robe ne couvre pas les genoux. Pas de sourire, une expression tranquille, quelque chose d'amusé, de curieux dans le regard. Lui, petite moustache et nœud papillon, paraît beaucoup plus vieux. Il fronce les sourcils, l'air anxieux, dans la crainte peut-être que la photo ne soit mal prise. Il la tient par la taille et elle lui a posé la main sur l'épaule. Ils sont dans un chemin au bord d'une cour avec de l'herbe haute. Derrière eux, les feuillages des 2 pommiers qui se rejoignent leur font un dôme. Au fond, la façade d'une maison basse. C'est une scène que j'arrive à sentir, la terre sèche du chemin, les cailloux affleurant, l'odeur de la campagne au début de l'été, mais ce n'est pas ma mère. J'ai beau fixer la photo longtemps, jusqu'à l'hallucinante impression de croire que les visages bougent, je ne vois qu'une jeune femme lisse, un peu empruntée, dans un costume de film des années 20. Seule, sa main large serrant les gants, une façon de porter haut la tête, me disent que c'est elle. Du bonheur et de la fierté de cette jeune mariée, je suis presque sûr, de ses désirs, je ne sais rien. Le premier soir, confidence à une sœur, elle est entrée dans le lit en gardant sa culotte sous sa chemise de nuit. Cela ne veut rien dire. L'amour ne pouvait se faire qu'à l'abri de la honte, mais il devait se faire, et bien, quand on était normal.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guirlandes, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde. Et le souvenir que je garde au cœur.
Après cette petite pause musicale, nous revenons à Une femme de Annie Ernaux.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Au début, l'excitation de faire la dame et d'être installée, étrenner le service de vaisselle, la nappe brodée du trousseau, sortir au bras de son mari, et les rires, les disputes. Elle ne savait pas faire la cuisine. Les réconciliations, elle n'était pas boudeuse. L'impression d'une vie nouvelle. Mais les salaires n'augmentaient pas. Ils avaient le loyer, les traites des meubles à payer. Obligé de regarder sur tout, demander des légumes aux parents, il n'avait pas de jardin. Et au bout du compte, la même vie qu'avant. il la vivait différemment. Tous deux le même désir d'arriver, mais chez lui, plus de peur devant la lutte à entreprendre, de tentation de se résigner à sa condition. Chez elle, de conviction qu'il n'avait rien à perdre et devait tout faire pour s'en sortir, coûte que coûte. Fière d'être ouvrière, mais pas au point de le rester toujours, rêvant de la seule aventure à sa mesure, prendre un commerce d'alimentation. Il la suivit. Elle était la volonté sociale du couple. En 1931, ils ont acheté à crédit un débit de boissons et d'alimentation. À Lillebonne, une cité ouvrière de 7000 habitants à 25 km d'Yvetot. Le café épicerie était situé dans la vallée, zone des filatures datant du XIXe siècle qui ordonnait le temps et l'existence des gens de la naissance à la mort. Encore aujourd'hui, dire la vallée d'avant-guerre, c'est tout dire. La plus forte concentration d'alcooliques et de filles mères, l'humidité ruisselant des murs et les nourrissons morts de diarrhée verte en 2 heures. Ma mère avait 25 ans. C'est ici qu'elle a dû devenir elle, avec ce visage, ses goûts et ses façons d'être, que j'ai cru longtemps avoir toujours été les siens. Le fonds ne suffisait pas à les faire vivre. Mon père s'est embauché sur les chantiers de reconstruction. Plus tard, dans une raffinerie de la Basse-Seine, où il est passé contremaître, elle tenait seule le commerce. Aussitôt, elle s'y est donnée avec passion, toujours le sourire, un petit mot pour chacun, une infinie patience. J'aurais vendu des cailloux. D'emblée, accordée à une misère industrielle qui ressemblait en plus dur à celle qu'elle avait connue et consciente de la situation, gagnait sa vie grâce à des gens qui ne la gagnaient pas eux-mêmes. Sans doute, pas un moment à soi entre l'épicerie, le café, la cuisine, où s'est mise à grandir une petite fille née peu après l'installation dans la vallée. Ouvrir de 6 heures du matin, les femmes des filatures passant au lait. À 11 heures du soir, les joueurs de cartes et de billard. Être dérangé à n'importe quel moment par une clientèle habituée à revenir plusieurs fois dans la journée aux commissions. L'amertume de gagner à peine plus qu'une ouvrière et la hantise de ne pas y arriver. Mais aussi un certain pouvoir. N'aidait-elle pas des familles à survivre en leur faisant crédit? Le plaisir de parler et d'écouter. Tant de vie se racontait à la boutique. Somme toute, le bonheur d'un monde élargi. Et elle évoluait aussi. Obligée d'aller partout, aux impôts, à la mairie, de voir les fournisseurs et les représentants, elle apprenait à se surveiller en parlant, elle ne sortait plus en cheveux. Elle a commencé à se demander, avant d'acheter une robe, si celle-ci avait du chic. L'espoir, puis la certitude de ne plus faire campagne. À côté de Delhi et des ouvrages catholiques de Pierre l'Ermite, elle lisait Bernanos, Mauriac et les histoires scabreuses de Colette. Mon père n'évoluait pas aussi vite qu'elle, conservant la raideur timide de celui qui, ouvrier le soir ne se sent pas en patron de café à sa vraie place. Il y a eu les années noires de la crise économique, les grèves, Blum, l'homme qui était enfin pour l'ouvrier, les lois sociales, les fêtes tard dans la nuit au café, la famille de son côté à elle qui arrivait, on mettait les matelas dans toutes les pièces, qui repartait avec des sacs bourrés de provisions, elle donnait facilement. Et n'était-elle pas la seule à s'en être sortie? Les brouilles avec la famille de l'autre côté, la douleur, leur petite fille était nerveuse et gaie. Sur une photo, elle apparaît grande pour son âge, les jambes menues, avec des genoux proéminents. Elle rit. Une main au-dessus du front pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. Sur une autre, près d'une cousine en communiante, elle est sérieuse, jouant cependant avec ses doigts écartés devant elle. En 1938, elle est morte de la diphtérie 3 jours avant Pâques. Il ne voulait qu'un seul enfant pour qu'il soit plus heureux. La douleur qui se recouvre simplement le silence de la neurasthénie, les prières et la croyance d'une petite sainte au ciel. La vie à nouveau. Au début de 1940, elle attendait un autre enfant. Je naîtrai en septembre. Il me semble maintenant que j'écris sur ma mère pour, à mon tour, la mettre au monde. Il y a 2 mois que j'ai commencé en écrivant sur une feuille « Ma mère est morte le lundi 7 avril ». C'est une phrase que je peux supporter désormais et même lire sans éprouver une émotion différente de celle que j'aurais si cette phrase était de quelqu'un d'autre. Mais je ne supporte pas d'aller dans le quartier de l'hôpital et de la maison de retraite, ni de me rappeler brutalement les détails que j'avais oubliés du dernier jour où elle était vivante. Au début, je croyais que j'écrirais vite. En fait, je passe beaucoup de temps à m'interroger sur l'ordre des choses, le choix et l'agencement des mots, comme s'il existait un ordre idéal, seul capable de rendre une vérité concernant ma mère. Mais je ne sais pas en quoi elle consiste. Et rien d'autre ne compte pour moi au moment où j'écris que la découverte de cet ordre-là. L'exode. Elle est partie sur les routes jusqu'à Niort avec des voisins. Elle dormait dans des granges, buvait du petit vin de là-bas, puis elle est revenue seule à bicyclette en franchissant les barrages allemands pour accoucher à la maison 1 mois après. Aucune peur. Et si sale en arrivant que mon père ne l'a pas reconnue. Sous l'occupation, la vallée s'est resserrée autour de leur épicerie dans l'espérance du ravitaillement. Elle s'efforçait de nourrir tout le monde, surtout les familles nombreuses. Son désir, son orgueil d'être bonne et utile. Durant les bombardements, elle ne voulait pas se réfugier dans les abris collectifs, à flanc de colline, préférant mourir chez elle. L'après-midi, entre 2 alertes, elle me promenait en poussette pour me fortifier. C'était le temps de l'amitié facile sur les bancs du jardin public. Elle se liait avec des jeunes femmes mesurées qui tricotaient devant le bac à sable pendant que mon père gardait la boutique vide. Les Anglais, les Américains sont entrés dans Lillebonne. Les tanks traversaient la vallée en jetant du chocolat et des sachets de poudre d'orange qu'on ramassait dans la poussière tous les soirs, le café plein de soldats, des rixes quelquefois, mais la fête, et savoir dire « shit for you ». Ensuite, elle racontait les années de guerre comme un roman, la grande aventure de sa vie. Elle a tant aimé, autant en emporte le vent. Peut-être dans le malheur commun, une sorte de pause dans la lutte pour arriver, désormais inutile. La femme de ces années-là était belle, teinte en rousse. Elle avait une grande voix large, criait souvent sur un ton terrible. Elle riait aussi beaucoup d'un rire de gorge qui découvrait ses dents et ses gencives. Elle chantait en repassant « Le temps des cerises, Rikita, jolie fleur de Java ». Elle portait des turbans, une robe d'été à grosses rayures bleues, une autre beige molle et gaufrée. Elle se poudrait à la houppette devant la glace au-dessus de l'évier, se passait du rouge à lèvres en commençant par le petit cœur du milieu, se parfumait derrière l'oreille. Pour agrafer son corset, elle se tournait vers le mur. Sa peau sortait entre les lacets croisés, attachés en bas par un nœud et une rosette. Rien de son corps ne m'a échappé. Je croyais qu'en grandissant, je serais elle. Un dimanche, il pique-nique au bord d'un talus, près d'un bois. Souvenir d'être entre eux, dans un nid de voix et de chair, de rire continuel. Au retour, nous sommes pris dans un bombardement, je suis sur la barre du vélo de mon père et elle descend la côte devant nous, droite sur la selle enfoncée dans ses fesses. J'ai peur des obus et qu'elle meure. Il me semble que nous étions tous les deux amoureux de ma mère. Donc voilà, nous avons terminé pour ce soir et nous nous retrouverons demain pour la suite du récit de Annie Arnaud, une femme. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.